Vous écoutez On lit pour vous.
Pénurie en série. Un dossier d'Alice Gérard-Bossé paru le 6 janvier 2024 dans la presse. Un médicament sur cinq en rupture de stock. En 2023, près de 3000 pénuries de médicaments ont été signalées au Canada, soit plus de 20% des produits homologués au pays, révèlent des données obtenues par la presse. Ça fait 10 ans que le Canada subit des pénuries sans arrêt. C'est vraiment incroyable. C'est surréel de voir la quantité de produits qui deviennent constamment en situation critique et tombent en pénurie, lance Jean-François Bussière, professeur de clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et ancien chef du département de pharmacie du CHU Sainte-Justine. En date du 29 décembre, 2975 pénuries de médicaments avaient été signalées au Canada en 2023. Alors qu'autrefois, on composait avec des pénuries de médicaments occasionnelles, celles-ci posent désormais un défi quotidien, souligne M. Bussière. Aujourd'hui, dans un gros département de pharmacie d'un hôpital, il y a quasiment une personne à temps plein qui s'occupe de ça, souligne Jean-François Bussière. De 2017 à aujourd'hui, 1878 des 9343 médicaments vendus sur ordonnance ont été frappés par une pénurie en moyenne chaque année, selon les données de Santé Canada obtenues par la presse. C'est plus d'un médicament sur cinq. Pas moins de 20% du temps de travail d'un pharmacien est consacré à la gestion des pénuries de médicaments, selon l'Association des pharmaciens du Canada. Ça implique notamment d'informer les patients et les équipes de santé, de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement et d'élaborer des solutions de rechange. On s'assure de minimiser les impacts. Ça ne se voit pas, mais c'est énormément de travail, dit la chef de département de pharmacie du CI3S de la Montérégie-Est, Diem Vaux. Des milliers de pénuries. Il y a énormément de pénuries tout le temps. La pandémie a vraiment mis de l'avant la fragilité de la chaîne d'approvisionnement, dit Geneviève Pelletier, directrice principale service pharmaceutique à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. La durée moyenne de chaque pénurie a atteint 98 jours en 2022-2023, soit plus de 3 mois, d'après les données de Santé Canada. Ces interruptions d'approvisionnement exercent une pression considérable sur le réseau de la santé. Un bulletin d'information est envoyé 2 fois par mois aux établissements de santé du Québec pour leur signaler les médicaments frappés par des difficultés d'approvisionnement. En 2021, on avait un document de 3 ou 4 pages. On a maintenant un document de 15 pages à peu près. Il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus préoccupants et critiques pour la clientèle, dit la présidente du Comité exécutif des acquisitions pharmaceutiques, CEAP, de la table des chefs de département de pharmacie, Diem Vaux. Qui plus est, certains s'inquiètent de voir les autorités américaines permettre à certains États d'importer des médicaments au sud de la frontière, à commencer par la Floride qui a reçu le feu vert vendredi. Le Canada ne peut tout simplement pas fournir des médicaments à la Floride ou à tout autre État américain, sans augmenter considérablement le risque et la gravité des pénuries de médicaments au pays. S'est alarmé dans un communiqué le président par intérim de Médicaments Novateurs Canada, un groupe d'intérêts représentant des entreprises pharmaceutiques, David Renwick. Pour sa part, le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, s'est voulu rassurant. Je tiens à assurer aux Canadiens qu'ils continueront à avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, a-t-il déclaré, ajoutant que des réglementations strictes pour protéger l'approvisionnement sont en place. Santé Canada a précisé par la suite que des règlements ont été mis en œuvre en vertu de la loi sur les aliments et drogues afin d'interdire la vente de certains médicaments destinés au marché canadien en vue de leur consommation à l'étranger si cette vente risque de provoquer ou d'aggraver une pénurie de médicaments au Canada. L'importation en vrac ne constituera pas une solution efficace au problème des prix élevés des médicaments aux États-Unis, a également affirmé le ministère. Des impacts pour la population. Maté Manuel Déniaud doit malgré lui composer avec les conséquences de la pénurie récurrente de testostérone injectable, un traitement utilisé par de nombreux hommes trans. J'en prends depuis bientôt 10 ans et j'ai perdu le compte du nombre de ruptures de stock vécues pendant ce temps, confie-t-il. Certaines des pires pénuries ces dernières années se sont étirées sur plusieurs mois. Ces pénuries impliquent de passer d'une sorte de testostérone à une autre. Or, certains réagissent mal à une des deux solutions, dit-il. C'est son cas. Il est allergique à l'un des deux produits disponibles. Il n'est d'ailleurs pas rare que la pénurie de l'un soit rapidement suivie par la pénurie de l'autre, alimentée par une hausse de la demande. Il y a bien l'option du gel ou des timbres, mais leur prix est beaucoup plus élevé, sans compter la nécessité d'appliquer quotidiennement le gel et les risques de transmission de doses à toute personne avec qui nous aurions un contact peau à peau dans les heures qui suivent l'application, dit-il. Vous écoutez Pénurie en série, un dossier d'Alice Gérard-Bossé, paru le 6 janvier 2024 dans la presse. À la recherche de solutions de rechange. Dans l'ombre, les pharmaciens s'efforcent d'atténuer les répercussions sur la population, notamment en s'assurant du suivi serré avec les fournisseurs. Ils doivent également aider les patients à trouver des solutions de rechange et gérer leurs inquiétudes, dit Mme Pelletier. Lorsqu'il n'y a pas de solution de rechange, les pharmaciens doivent parfois solliciter Santé Canada ou le Centre antipoison pour modifier la date de péremption des médicaments jusqu'au réapprovisionnement ou l'arrivée d'une solution de remplacement, explique Diem Vaux. Les pénuries de médicaments peuvent également entraîner des coûts supplémentaires. Les traitements de substitution sont parfois plus onéreux, faisant ainsi grimper la facture tant pour les patients que pour la régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, explique le directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie, AQDP, Hugues Mousseau. Carole Chapdelaine fait face à cette réalité depuis septembre. Le stylo Ozempic de 4 mg qu'elle utilise chaque mois est en rupture de stock. Elle se voit donc obligée d'acquérir 2 stylos de 2 mg pour la même période. Les stylos étant au même prix, quelle que soit la dose, le coût de son traitement est passé de 238 $ par mois à 476 $ par mois. Je suis outré que la compagnie pharmaceutique profite de la pénurie qu'elle cause. C'est honteux, déplore-t-elle. En savoir plus, source, Association des pharmaciens du Canada. 1 personne sur 4. Proportion des Canadiens qui a personnellement vécu une pénurie de médicaments ou connaît quelqu'un qui y a été confronté. Les origines d'une crise. Le Canada se trouve aujourd'hui à la merci des fabricants de médicaments étrangers qui ont migré vers l'Asie pour profiter des coûts de main-d'œuvre moindres. L'Asie au cœur de la production. Ces dernières années, la majorité des entreprises produisant les ingrédients pharmacologiques actifs des médicaments ont été relocalisées de l'Europe vers l'Asie. Parce que la main-d'œuvre y est moins coûteuse, la fabrication du médicament dans sa forme finale a également commencé à être réalisée à l'étranger, dit le pharmacien Jean-François Bussière. Cette délocalisation de la production n'est pas sans conséquence pour le Canada, insiste-t-il. On n'a plus d'usines et on ne sait plus comment fabriquer de médicaments. Lors de pénuries, le Canada se trouve soumis aux décisions de la Chine et de l'Inde. Ce sont eux qui décident s'ils nous envoient du stock ou pas, dit-il. L'effet domino. La mondialisation a également conduit à une réduction du nombre d'entreprises produisant ces ingrédients actifs. La chaîne de production des médicaments est ainsi devenue beaucoup plus vulnérable aux problèmes d'approvisionnement. Si on a seulement 2 fournisseurs de l'ingrédient actif et qu'il arrive des problèmes à l'un des deux, comme des enjeux financiers, de ressources, de contamination ou de production, ça vient complètement affecter tout le reste de la chaîne, dit M. Bussière. La concurrence féroce entre les fabricants fait en sorte qu'ils ne sont plus en mesure de maintenir des stocks importants. Avant, le fabricant se gardait un stock, puis il détruisait l'excédent à la fin de l'année. Il avait les moyens de faire ça. Maintenant, il a des réserves justes. Une défaillance dans la production peut alors déclencher des pénuries en cascade. Souvent, une pénurie en génère deux, trois ou quatre. Tout le monde tombe au combat parce qu'il y a peu de marge, dit-il. La gestion complexe des stocks. Si je vous apprends que le beurre d'arachide ou l'huile d'olive va être en pénurie pendant 2 ans, mon petit doigt me dit que vous allez aller à l'épicerie en acheter 2 ou 3 de plus, lance Jean-François Bussière. Avec les médicaments, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Les établissements, y compris les hôpitaux, vont en garder le moins possible, dit-il. C'est essentiellement en raison d'un manque d'espace dans les établissements de santé, précise la pharmacienne Diane Vaux. La situation est similaire dans les pharmacies. Quand il y a un imprévu, il n'y a pas toujours de tampon. Les pharmacies ont un roulement d'environ 1 mois, dit Geneviève Pelletier, directrice principale, service pharmaceutique à l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Les pharmaciens propriétaires ne sont pas toujours en mesure de stocker de plus grandes quantités. Avoir des stocks plus importants, ça peut paraître une bonne idée, mais il y a des contraintes financières en jeu, dit-elle. Stocker un excès de médicaments peut entraîner des pertes potentielles s'ils ne sont pas utilisés avant leur date de péremption. Le tampon diminue. Dans l'entrepôt de l'entreprise McKesson du boulevard Pineuf à Montréal, des milliers de caisses de médicaments sont entreposées avant d'être envoyées dans les pharmacies et les hôpitaux. Historiquement, les grossistes en médicaments du Québec conservaient de quoi alimenter leurs clients 8 à 10 semaines dans leurs locaux, une valeur d'environ 1 milliard de dollars. Lors des pénuries, les grands stocks permettaient de pallier un dérèglement temporaire, explique Hugues Mousseau de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie, AQDP. On était capable de financer des stocks plus substantiels. Les taux d'intérêt, entre autres, étaient plus bas, mais les grossistes en médicaments étaient aussi en posture financière plus solide. La situation financière a changé depuis et les grossistes ne sont plus en mesure de conserver autant de produits. Ils doivent désormais se contenter de constituer des stocks pour 4 semaines. Hausse de la demande. Une augmentation soudaine de la demande peut entraîner d'importantes pénuries. Ça a été le cas notamment avec Ozempic, un médicament initialement prescrit pour le diabète, mais qui s'est révélé efficace pour la perte de poids, indique M. Mousseau. Le fabricant a dû s'adapter en développant de nouvelles façons de produire des quantités plus grandes, dit-il. Les médias peuvent aussi contribuer à cette augmentation de la demande, exacerbant ainsi les problèmes de pénurie. Le meilleur exemple, je pense, ce sont les enjeux d'approvisionnement qu'on a eus l'an dernier en ibuprofène et en acétaminophène pédiatrique. Le fait d'en avoir parlé abondamment dans les médias a créé dans la population un effet de panique qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à stocker des quantités importantes à la maison pour éviter d'en manquer, se remémore M. Mousseau. Vous écoutez « Pénurie en série », un dossier d'Alice Girard-Bossé paru le 6 janvier 2024 dans la presse. Des solutions à venir. D'un bout à l'autre du Québec, des professionnels de la santé s'activent à créer une liste de médicaments critiques, une mesure jugée indispensable pour parer à d'éventuelles pénuries. Établir la liste des médicaments critiques. Il est primordial de faire une liste de médicaments essentiels qui entraîneraient des préjudices importants pour les patients en cas de pénurie, afin de s'assurer d'en avoir suffisamment en stock, estime la pharmacienne Diane Vaux. Le Québec s'était doté d'une liste de médicaments critiques en lien avec la COVID-19 pendant la pandémie. La province travaille désormais à dresser une liste plus générale des médicaments essentiels. Il y a actuellement des travaux au ministère avec des experts de différentes spécialités, des intensivistes, des urgentologues, des infectiologues et des pharmaciens pour identifier les médicaments qui sont critiques, indique-t-elle. L'Europe a d'ailleurs publié le 12 décembre sa première liste de médicaments critiques pour faire face aux pénuries. La liste, qui contient plus de 200 substances comme l'insuline, la morphine et le paracétamol, acétaminophène, sera mise à jour chaque année. La Commission européenne s'assurera de la continuité de l'approvisionnement de ces médicaments critiques. Des prix attrayants. Afin de se protéger contre les pénuries, le Canada doit s'assurer d'avoir des prix de vente de médicaments concurrentiels, soutient Hugues Mousseau. Quand il y a une pénurie, on veut que les stocks qui restent soient envoyés dans des pays comme ici, au Canada. Alors, il faut qu'on s'assure d'avoir les bons prix pour les médicaments, dit-il. De façon générale, le fabricant va vouloir répartir équitablement ses médicaments à travers le monde. Or, en situation de pénurie, le fabricant peut décider de répartir différemment les stocks restants en cas de rareté d'approvisionnement, explique Hugues Mousseau. D'où l'importance pour le Canada d'être considéré comme un marché attrayant, dit-il. Se partager les médicaments restants. Le Québec doit s'assurer de répartir ses stocks entre les différents établissements en cas de besoin, indique Diane Vaux. Il faut s'assurer que nos patients qui sont dans le nord du Québec, tout comme ceux qui sont au CHUM à Montréal, reçoivent la médication, dit-elle. Lorsqu'un médicament doit être transféré d'un établissement montréalais à un autre, c'est facile, dit Diane Vaux. La situation devient plus complexe lorsque le médicament doit parcourir des centaines de kilomètres. Il y a des ententes qui ont été faites pour entreposer des médicaments chez McKesson pour pouvoir les redistribuer dans les établissements au moment où on en a besoin, dit Diane Vaux. Des médicaments produits en Amérique du Nord? La dépendance du Canada à l'égard des fabricants étrangers accentue les risques de pénurie. À mon avis, il faut renverser la tendance, dit Jean-François Bussière. Sans pour autant produire les médicaments entièrement au Canada, il y a peut-être une façon d'en rapprocher la production. En discutant avec les États-Unis, le Canada et le Mexique, il y a peut-être moyen de réfléchir à notre production de médicaments. C'était « Pénurie en série », un dossier d'Alice Girard Bossé, paru le 6 janvier 2024 dans la presse.
Elena et Stefano Faita, travaillant de mère en fils. Une entrevue réalisée par Caroline Fortin, parue en mai 2023 dans le magazine Bel Âge. Ils ont cuisiné, enseigné, tenu boutique, ensemble, et séduit le Québec tout entier. Elena et Stefano Faita sont animés de la même passion et du même désir de transmission. Tout commence avec Teresa Faita. Elena. Ma mère était une femme extraordinaire qui nous a transmis son ardeur au travail. Lorsque mes parents ont immigré à Montréal, ma mère a travaillé au marché Jean Talon dans un kiosque maraîcher. Elle avait déjà le sens des affaires, puisqu'elle donnait beaucoup de conseils aux clients et les envoyait à la quincaillerie Dante, qui appartient à notre famille depuis 1956, s'équiper pour faire la sauce tomate. Le peintre québécois, Richard Monpetit, a même peint ma mère et sa toile a été reproduite sur les portes d'un ascenseur dans la nouvelle section du marché. Deux cuisinières hors pair. Elena. J'ai appris beaucoup en cuisinant avec ma mère, mais aussi avec ma belle-mère. Nous, on vient du centre de l'Italie, mais la famille de mon mari venait du nord, et je suis tombée en amour avec cette cuisine qui me ressemble davantage. Au décès de ma mère, j'ai hérité de sa planche, dont je me sers encore aujourd'hui, et de son rouleau pour les pâtes. Grandir dans la cuisine. Stefano. Quand on était jeune, ma sœur Christina et moi, notre mère nous faisait à souper chaque soir, même si elle travaillait beaucoup. Et le dimanche, on prenait le temps de préparer en famille des mets un peu plus élaborés. J'ai grandi en regardant ma mère cuisiner pendant des heures et en goûtant à tout. Quand on a été un peu plus vieux, elle a commencé à nous faire participer. Ça ne la dérangeait pas qu'on mette le bordel. Elle disait « pas grave, on va nettoyer après ». On a fait nos premières pâtes fraîches enfants, avec nos mains, avant de passer au laminoir plus tard. Elena. Jeune, il ne faisait pas les tomates avec nous, mais une fois rendu à 16-18 ans. Stefano. On se faisait réveiller à 6 heures du matin pour participer. L'odeur de tomates n'était pas super ragoûtante, mais on se motivait en pensant au bon repas qui allait clore la journée. Le secret est dans la sauce, Elena. Après le décès de ma mère, on m'a demandé au marché Jean Talon si j'étais prête à faire des démonstrations de pâtes fraîches et de mise en conserve des tomates pendant la saison des récoltes. J'ai accepté. À la fin de chaque séance, je faisais goûter les pâtes avec la sauce tomate. Et je me faisais demander chaque jour si on vendait notre sauce en pot. C'est pour ça que Stefano a fini par lancer sa sauce tomate. C'est exactement la même qu'on prépare depuis des générations dans notre famille et dans bien des familles italiennes. Quand il m'a parlé de son idée, mon premier conseil de mère a été de lui dire « Si tu le fais, fais-le bien. » Encore aujourd'hui, je mets mes tomates en conserve chaque année et je fais 100 pots de sauce. Stefano aussi fait de même avec Isabelle et leurs 3 enfants. Je trouve que c'est une belle tradition à transmettre. La rigueur en héritage, Stefano. Ma mère et mes 2 grands-mères m'ont légué leur amour de la bouffe, mais aussi leur rigueur et leur persévérance. Ça m'a servi jusqu'ici et ça me servira toute ma vie. Elena. Pour ma part, je retiens de ma belle-mère sa discipline. C'est elle qui gardait les enfants le matin et au retour de l'école, et elle leur faisait faire leurs devoirs avant de leur donner une collation. Stefano. C'était quand même strict chez mes grands-parents. Après mes devoirs, j'allais jouer au baseball au parc Jarry. Ils n'ont jamais raté un de mes matchs, ni mes matchs de hockey. J'étais super bien entouré. Travailler ensemble. Elena. C'était important pour moi que mes enfants fassent des études. Je ne voulais pas qu'ils triment dur comme moi. Mais les 2 sont venus d'eux-mêmes travailler à la quincaillerie. C'est même Christina qui a eu l'idée d'ouvrir l'école Mezzaluna, où je donnais des cours de cuisine avec Stefano. Puis, elle est tombée en amour avec un Italien et elle est partie faire sa vie là-bas. Stefano. On n'a jamais vraiment eu de conflit, ma sœur et moi, ni avec mon oncle Rudy, le partenaire d'affaires de ma mère. On partageait la même vision et Elena nous a toujours ramenés sur la bonne voie quand on s'écartait un peu. On travaillait ensemble le jour à la quincaillerie et le soir, on donnait des cours à Mezzaluna. Donc, on avait une relation un peu différente des autres mères et fils italiens parce que nous, la fin de semaine, on ne voulait pas se voir ni souper ensemble. Un avenir incertain. Stefano. Depuis quelques années, on discute pour savoir si je vais reprendre la quincaillerie que j'ai quittée il y a environ 10 ans. Elena. Mais tu en as déjà beaucoup dans ton assiette, Stefano. C'est sûr. J'ai 4 restos, 1 entreprise, 3 enfants. Je ne peux pas tout faire et c'est important de garder un équilibre. La conversation n'est pas complètement fermée. Ma blonde me dit chaque jour ou presque que ce serait dommage que ça sorte de la famille. En même temps, il y a une fin à toute chose, et mettre la clé dans la serrure quand tout va bien vaut mieux que de péricliter et devoir fermer. Bref, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Ma mère est une superwoman. Je connais des gens qui ont la moitié de son âge qui n'ont pas son énergie. Et en même temps, à 75 ans, la plupart des gens sont à la retraite. La relève. Stefano. Mon petit dernier, Dario, est le plus difficile de la famille. Il ne mange pas de sauce tomate. Les 3 baignent dans la cuisine depuis leur enfance et on cuisine beaucoup ensemble. Anna, celle du milieu, est la plus gourmande des 3. Elle me demande d'elle-même si elle peut m'aider en cuisine. Emilia a 14 ans. Donc, elle a sa vie d'ado, mais elle et sa sœur sont toujours partantes pour donner un coup de main. Elles sont encore jeunes. Et je ne veux pas leur mettre de pression, tout comme mes parents ne m'en ont jamais mis. Si jamais l'entreprise est encore là et que ça les intéresse, tant mieux. Un legs fondamental. Stefano. La chose la plus importante que ma mère m'a léguée par rapport à la bouffe, c'est l'autonomie culinaire. Je suis parti en appartement jeune à 20-21 ans et je savais déjà cuisiner, comment me nourrir, faire mon épicerie, tout ça. Cette indépendance est précieuse. J'espère léguer la même à mes enfants. L'importance des traditions, Stéphano. On ne souligne pas toutes les fêtes du calendrier, mais Noël, c'est sacré. Le 24, on respecte la tradition avec un menu composé uniquement de poissons chez mon oncle. Le 25, ma mère fait sa fameuse lasagne des fêtes que tout le monde connaît maintenant avec les petites boulettes et les œufs durs dedans. Sinon, on souligne nos anniversaires en petit comité. Et à la fête des mères, on donne des fleurs à Elena et on soupe ensemble. Une admiration mutuelle, Stéphano. J'admire l'éthique de travail et la rigueur de ma mère. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi généreux sur tous les plans. C'est une femme déterminée, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce, qui est passionnée. Je lui dois pas mal ma carrière. Je ne serais peut-être pas rendu là sans elle. J'ai fait ma part, mais on vient tous de quelque part et moi, je viens d'Elena. Elena. Mon fils est aussi un fonceur et il demeure noble. C'est ce que je veux voir, car je veux être fier de lui et je le suis. Les gens me disent que le Stéphano qu'ils connaissaient avant est resté le même. Il faut toujours avoir le même respect pour tout le monde et c'est ce que j'aime beaucoup de mon fils. Votre souvenir culinaire le plus lointain. Elena. J'avais 8 ans. Ma mère était très occupée cette journée-là et ma sœur et moi, on voulait manger des gnocchis. Elle nous a dit « Vous m'avez souvent vu faire, faites-vous-en ». Alors, on a cuit les pommes de terre, on les a épluchées encore chaudes et on les a pilées à la fourchette car on n'avait pas de pilon dans ce temps-là. Je pense qu'il y avait plus de farine par terre que sur la table, mais on les a faits. Et ils étaient mangeables. Même si on avait mis trop de farine, ce qui les avait rendus un peu durs. Ça a été notre première leçon. Et après, elle nous a dit « Vous avez sali, maintenant nettoyez. » Stéphano. Pendant que tous mes amis écoutaient les dessins animés le matin, je regardais ma mère cuisiner. Comme j'étais proche du poêle, ma mère avait toujours peur que je me brûle, mais ce n'est jamais arrivé. C'était Elena et Stéphano Faita, travaillant de mère en fils, une entrevue réalisée par Caroline Fortin, parue en mai 2023 dans le magazine Bel Âge.